J'ai réduit totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de vous voir au Cassandra. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'être avec nous dans cette émission Parole aux auditeurs, l'émission, le rendez-vous des auditeurs et auditrices de Radio Capi, l'émission qui est faite par et pour les auditeurs de Radio Capi, le secteur minier au nord et au sud qui voulait militariser. C'est ce qu'explique le dernier rapport de l'ONG britannique Global Witness de juillet 2009, rapport intitulé « Face à un fusil, que peut-on faire ?» Dans ce rapport, Global Witness met à nu l'implication des miliciens hutu-rwandais des FDLR, de quelques militaires et commandants des FARDC de l'armée nationale, et même l'implication de certaines sociétés étrangères et de certains pays voisins de la RDC tels que le Rwanda et le Burundi dans l'exploitation et les trafics de l'or, de la cassiterite et du coltan au nord et au sud Kivu, avec comme conséquence des actes de violence et d'intimidation sur les civils, et ce trafic alimente ainsi les conflits à l'est du pays. Quel est votre point de vue sur ce rapport de Global Witness et la situation qu'elle décrit, et comment mettre fin à ce commerce des minerais de la mort? Nous en parlons aujourd'hui avec Mme Karina Serpatian, de l'ONG qui a justement produit ce rapport. Il s'agit de Global Witness. À nos auditeurs et auditrices qui vont intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs, pour qu'il n'y ait pas d'effet désagréable à l'antenne et pour qu'on ne perde pas du temps, veuillez vous éloigner, s'il vous plaît, de votre poste radio. Excellente condition d'écoute à tous et à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par Internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Bonjour Madame Karina Terfakian.
Bonjour.
Vous êtes de l'ONG, justement, Global Witness, qui a produit ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé de ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous aviez dit dans votre rapport, ou y a-t-il peut-être des ajouts à faire?
Oui, vous avez très bien résumé. Le rapport décrit les résultats d'enquêtes que nous avons menées sur le terrain au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et nous avons constaté pendant ces enquêtes que, en effet, tous les principaux groupes armés, aussi bien que l'armée nationale congolaise, sont fortement impliqués dans l'exploitation et le commerce des minerais dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et c'est le plus souvent la population civile congolaise qui est en train de souffrir, qui est forcée de travailler pour ces militaires ou pour ces groupes armés. Souvent, les militaires ou les bandes armées prennent une partie ou même la totalité des minerais que produisent les creuseurs et soumettent également à des actes de violence. Et ces groupes armés et les militaires s'enrichissent considérablement grâce à ce commerce. Donc, nous estimons que ce commerce continue d'être l'un des facteurs qui prolonge le conflit à l'est de la RDC.
Est-ce que, madame, quand vous parlez des militaires de l'armée nationale et FARDC, est-ce que c'est tous les militaires ou c'est une partie des militaires et quelques commandants, par exemple la BIC, comme vous l'aviez dit dans votre rapport au Nord Kivu?
Non, ce ne sont pas forcément tous les militaires, bien sûr, mais c'est une pratique qui est extrêmement répandue et qui remonte jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire. Nous avons relevé les noms de plusieurs commandants au niveau de la 8e et la 10e région militaire, donc du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc c'est un système en fait qui est extrêmement bien organisé parce qu'on trouve les petits militaires qui sont à présent au niveau des carrières. Mais eux...
On voit même la photo d'un militaire dans la carrière de BC au Nord Kivu, dans votre rapport, hein.
Justement, nous avons choisi cette photo pour la couverture, pour illustrer ce problème. La carrière du BC, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant. Donc pendant 3 ans, de 2006 jusqu'à mars 2009, cette carrière qui représente presque 80% de la production totale de la région de Cassiterite, hein, était entièrement sous le contrôle d'une brigade des FARDC. Alors, depuis mars de cette année, cette brigade a été déplacée, il y a une autre qui l'a remplacée, mais on craint que les mêmes pratiques ne soient répétées cette fois-ci par une autre brigade composée en partie des FARDC et des anciens du CNDP.
Est-ce que ce n'est pas pour surveiller cette partie du territoire que le gouvernement avait déployé l'armée nationale? Est-ce que cette brigade a été déployée là-bas rien que pour exploiter la Cassiterite?
Bon, normalement, bien sûr, les militaires devraient être là pour protéger la population, mais en fait, c'est le contraire qui est arrivé. Nous avons vu avec, c'était la 85e brigade, donc pendant ces trois années, qui contrôlait Bissier et qui contrôlait entièrement la production. Donc le commandant qui était le chef de cette brigade en a profité personnellement, mais il y a aussi des officiers du commandement provincial qui soutenaient ces pratiques et qui en ont profité personnellement aussi.
Voilà, merci beaucoup Madame Karina Terstagian. Je rappelle que vous êtes de l'ONG Global Witness qui vient de produire un rapport sur la militarisation du secteur minier au nord et au sud Kivu. On vous garde tout au long de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Cap sur le Kasaï oriental, je l'espère, hein. C'est au lac Mukamba particulièrement. Joseph, vous pouvez me le confirmer, c'est au Kasaï oriental?
C'est juste entre les frontières Kasaï oriental, Kasaï occidental, au niveau du lac Mukamba, bien sûr.
Voilà, mais c'est au Kasaï oriental.
Non, le village c'est Kanyinda, donc c'est dans le Kasaï, le presque dernier village avant d'aller dans le Kasaï oriental.
Voilà, ben, merci, je n'ai pas beaucoup de précision si c'est finalement au Kasaï occidental ou au Kasaï oriental. N'empêche, nous allons continuer avec vous, vous êtes donc sur place, vous vous appelez Joseph. Quel est votre point de vue sur cette question?
Claude, je voudrais d'abord remercier Madame du Global Witness pour son rapport.
Oui, Karina.
Je regrette que ces bruits-là, on ne fait que les entendre. Crier tout haut. Il y a des pillages, il y a des militaires qui font ceci, il y a des exactions, tout ça. Oui, on en est habitué. Je voudrais d'abord commencer par un exemple dont je suis moi-même victime.
Oui.
Vous savez, ce côté, nous sommes créseurs. Notre région, en particulier le Kasaï occidental, il y a des frontières qui longent là-bas, du côté de l'Angola, et partout là, c'est militarisé. Il y a de la police frontalière. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a toujours des intimidations par les militaires, de la police frontalière, tout ça. On peut vous surprendre en train de créser, et on emporte les graviers, soit... On vous demande de creuser seulement et vous partagez le butin, le revenu du gravier. Bon, finalement, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Quand on dit que non, ça, c'est un système qu'on fait pour quoi, continuer avec la guerre, s'enrichir par les militaires, tout ça. Ce sont des réalités que moi j'ai vécues. Les militaires en profitent, ils sont contents d'être envoyés au front et de ce côté-là, pour pouvoir exploiter les minerais, parfois qui entreraient dans leurs comptes et dans les comptes de ceux qui les ont envoyés là-bas. Et parfois pour monter des grades, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et c'est quelque chose qu'on déplore, et qu'on ne sait pas trouver, pour laquelle on ne sait pas trouver de solution toutefois. Et aussi, il y a des hommes, des garçons civils qui trouvent que non, pour trouver ces minerais-là, il faut se passer pour des militaires. Nous avons vécu ce cas-là. J'ai même un jeune frère qui s'est passé pour un militaire de l'Angola pour pouvoir trouver accès dans des mines et faire toutes ces manœuvres-là. Et je regrette que madame ne donne que le rapport, et après le rapport, tout ce qu'il faut faire, c'est parfois trouver des stratégies par lesquelles on peut arrêter ces exactions-là. Parce que finalement, on a des militaires pour sécuriser. Donc quand on envoie des militaires là-bas, ils ne sécurisent pas, mais ils en profitent aussi pour pouvoir s'enrichir après tout.
Voilà, donc, merci beaucoup. Merci Joseph, on vous a compris. En une phrase, hein, que proposez-vous pour mettre fin à ce commerce de la mort, des minerais de la mort?
Je crois qu'il fallait commencer par combattre la corruption qui gangrène le pays et qui dérange presque tous les systèmes, toutes les structures du pays. Il fallait battre la confiance des militaires qui sont envoyés là-bas. Ils comprennent que nous allons non seulement pour exploiter les minerais, non plus même pour exploiter les minerais, mais pour sécuriser les régions ou nos frontières ou les populations qui sont malmenés là-bas.
Merci beaucoup, Joseph. Je rappelle que vous intervenez depuis le lac Moukamba et c'est au Kasaï occidental, si je vous ai bien compris, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, c'est exactement ce que vous avez dit.
Voilà, vous l'avez dit enfin. Merci beaucoup. D'une province à une autre, nous allons nous rendre à Mbandaka et c'est dans la province de l'Équateur. Franck, vous êtes sur place. Bonjour.
Bonjour, Claude.
Est-ce que vous avez également des témoignages de l'exploitation minière chez vous là-bas de façon tout à fait illicite? Ça peut être par des hommes armés ou d'autres personnes?
Pratiquement à l'Équateur, je ne suis pas rendu dans des milieux où il y a des mineurs.
Voilà.
Mais je voulais un peu parler de ce qui s'est passé à l'Est là.
Oui.
Ce que j'ai beaucoup regretté, Claude, le ministre qui a parlé à l'émission Dialogue, j'ai beaucoup regretté qu'il y a un officier militaire qui se trouve là-bas, qui facilite aussi les FDLR à exploiter nos richesses. Et ce militaire, cet officier est resté il y a 3 ans qu'on essaie qu'on n'arrive pas à l'arrêter ou de le faire sortir de là. C'est parce que il y a celui qui tire le ficelle se trouve à Kinshasa. Parce que s'il était quelque part là, on allait le faire sortir. Mais on le laisse comme ça. Vous voyez, dès que notre gouvernement n'est pas en mesure de maintenir ou de contrôler la situation de l'Est, la guerre ne finira pas parce que ces gens se font de l'argent à cause de minéraux qu'ils retirent là-bas et ils vendent, ils achètent des armes et la guerre ne va pas finir.
Voilà, mais il y a quand même des opérations hein, à l'est du pays. Nous allons également en parler, si ça peut avoir également une incidence sur la fin de cette exploitation illicite des minerais au nord et au sud Kivu. Mais je vais vous rappeler les paroles prononcées par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, dans l'émission Parole Dialogue entre Congolais de mardi dernier. Il disait que la RDC était victime de ses richesses. Il dit que le président de la République l'avait d'ailleurs dit, et que ce sont des gens qui veulent piller les richesses de la RDC en complicité avec certains de nos compatriotes qui peuvent même être dans des institutions et dans nos structures. Ce sont là les propos du ministre de la Communication et Médias. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Mbandaka, et c'est dans la province de l'Équateur. De Mbandaka, nous allons nous rendre dans la partie sud-est du pays, à Lubumbashi et c'est au Katanga. Hervé, vous êtes sur place. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui du précédent auditeur qui pense que la guerre ne finira pas tant qu'il y aura cette exploitation illicite des minerais par des groupes armés étrangers ou même par certains militaires congolais ou leurs commandants ou même par des sociétés étrangères?
Merci beaucoup, Claude Kelda. Moi, je vous rappelle seulement que je suis au Katanga.
Oui.
Précisément, je suis à Lubumbashi, mais bon, comme vous le savez, dans toutes les provinces minières, tous les jeunes pour du travail, nous nous battons dans les carrières pour trouver transporter un peu d'argent pour nourrir nos familles. Et généralement, quand vous arrivez dans les carrières, c'est vraiment un état dans un autre état. L'armée, tous les services sont là, chacun, les supérieurs et toutes les autorités essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Et comme ils ont la force publique et tout ça, les militaires, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est le cas dans beaucoup de carrières. Milele, Akatanda, Alisha, Couvert, Tenke, partout ailleurs. Donc, c'est vraiment une situation qui se vit dans ces carrières.
Donc, ce n'est pas, ça concerne aussi, je vous ai bien compris, cette situation d'exploitation illicite des minerais congolais ne concerne pas que le nord et le sud Kivu, mais également les autres provinces du pays, comme au Katanga et comme également au Kasaï occidental, comme on vient de l'entendre.
Oui, à l'Est, c'est un peu plus particulier parce que les minerais à l'Est, c'est le coltan, le cassiterite qui entrent en compte dans la fabrication dans la téléphonie mobile.
Ouais.
Dans la province, par exemple, c'est le cuivre et le cobalt. Donc, toutes les plantations qui sont faites, les peu de minerais qu'on peut trouver là dans l'exploitation artisanale se pourrait vendre dans les dépôts des Chinois, des Libanais ou des autres expatriés qui ont des comptoirs qui rachètent à vil prix en fait les minerais que les creuseurs ou les exploitants artisanaux ramènent dans leurs dépôts.
Mais
spécifiquement, moi je voulais
terminer s'il vous plaît.
Je voulais placer un mot par rapport à l'Est.
Terminer.
Ce qui se passe à l'Est, il y a beaucoup de rapports autour de ça. Et j'ai même suivi la
déplacez-vous s'il vous plaît, Hervé. Déplacez-vous s'il vous plaît, oui. Parce que on vous reçoit entrecoupé. Déplacez-vous s'il vous plaît, si vous êtes dans une maison, si vous pouvez aller à l'extérieur, rapidement s'il vous plaît.
Ah ok. Je disais. Que l'exploitation à l'Est a fait l'objet de beaucoup d'enquêtes qui ont été publiées. La dernière en date que j'ai suivie personnellement, c'est sur France 24, où on a montré un document bien réalisé sur les coltans du sang qui entrait en fond dans la fabrication dans la téléphonie mobile. Moi, ce que j'aimerais dire ici, la communauté internationale sait, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons... au Congo, l'une des missions des Nations Unies la plus importante, qui bouffe pratiquement $1 milliard chaque année. C'est tout simplement pour exprimer l'insuffisance ou l'incapacité de notre armée et de notre gouvernement à pouvoir sécuriser cette partie est de la République. Donc moi je pense à ce niveau que la communauté internationale, plutôt que de dépenser les milliards de dollars qu'ils dépensent chaque année, il devrait aider la République à mettre la main sous les entreprises qui financent la guerre, la violence à l'Est, pour s'accaparer du coltan et de la cassiterite à l'Est qu'ils exploitent finalement dans leur société qui font beaucoup de bénéfices à travers le monde, qui fabriquent... qui sont dans la téléphonie.
Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Hervé. On vous a compris. Merci beaucoup, Hervé. Au revoir.
Le magazine Association, c'est votre rendez-vous avec les décideurs et les acteurs sociaux. Santé, économie, transport, éducation, travail, parler des problèmes qui vous concernent sur votre radio. De lundi à vendredi, venez nous rejoindre à partir de 9h, heure de Kinshasa. Focati Action, le magazine de la vie au quotidien. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes bien sûr Radio Capi dans l'émission interactive Parole aux auditeurs qui vous donne la parole en direct sur ces antennes. Et pour vous permettre d'intervenir en direct, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Dans son dernier rapport de juillet 2009, l'ONG britannique Global Witness met à nu l'implication des miliciens hutu-rwandais FDLR, de quelques militaires et commandants des FARDC, et de celle de l'implication de certaines sociétés étrangères dans l'exploitation et le trafic de l'or, de la cassiterite et du coltan au nord et au sud Kivu. Certains pays tels que le Rwanda et le Burundi constituent aussi des pays de transit de ces minéraux. Alors, quel est votre point de vue sur ce rapport du Global Witness et la situation qu'elle décrit, et comment mettre fin à ce commerce des minéraux de la mort? Voilà, ce sont là les questions qui animent, qui vous permettent d'intervenir dans l'émission d'aujourd'hui. Nous avons une invitée avec nous pour en parler. Il s'agit de Madame Karina Terpakian. Elle est justement de l'ONG Global Witness qui a produit ce rapport. Nous allons accorder la parole à Madame Karina. Vous avez suivi les différentes réactions. Qu'est-ce que vous pouvez dire de prime abord?
J'ai bien écouté.
Et excusez-moi, donc on se rend compte que l'exploitation peut être illégale hein, avec des hommes armés, des minéraux congolais. Ce n'est pas simplement au nord et au sud Kivu. Vous avez suivi au Kasaï, c'est la même chose. L'implication des hommes armés au Katanga également, c'est la même chose. Finalement, c'est un peu répandu dans le pays.
Tout à fait. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons également enquêté dans d'autres provinces, donc nous savons que ce n'est pas uniquement à l'Est. Mais comme l'a dit l'un des intervenants, l'un des auditeurs, il y a une situation particulière qui prévaut à l'Est, et c'est notamment cette situation de guerre qui continue, et il y a des groupes armés là-bas qui sont extrêmement violents, comme nous le savons. Alors, j'étais vraiment d'accord avec ce qu'a dit le premier auditeur. quand il a parlé du fait que les militaires, en fait, veulent être déployés dans ces provinces-là, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent profiter de l'anarchie qui règne pour s'enrichir personnellement, et même, comme l'a dit le monsieur, il y a des gens qui ne sont même pas des militaires, mais qui se font passer pour des militaires, et ça, c'est vraiment une situation désolante. Alors, il y a un point que j'aimerais souligner, que dont nous avons parlé dans le rapport, si nous essayons de trouver des solutions à ce problème. Oui. Il faut chercher des solutions au niveau de la justice. Ça, c'est vraiment l'aspect fondamental. Il y a une impunité totale qui protège les militaires ou d'autres personnes responsables de l'exploitation illicite des minerais. C'est une pratique qui est bien sûr très bien connue, mais il y a très peu de cas, voire aucun, où des militaires et encore moins des officiers ont été traduits en justice pour ces crimes-là.
Donc, est-ce que les autorités congolaises sont au courant? Est-ce que vous avez parlé avec des autorités congolaises pour leur expliquer ce que vous avez décrit dans ce rapport?
Absolument, nous parlons régulièrement aux autorités congolaises. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens d'une audience avec Monsieur le ministre des Mines, par exemple, et il y a d'autres autorités que nous rencontrons dans les jours qui viennent. Dans le cadre de nos enquêtes, au Nord Kivu, nous avons également rencontré les autorités provinciales, civiles, mais militaires aussi. Et directement, nous avons présenté nos conclusions aux commandants de ces deux régions militaires qui, malheureusement, ont plutôt eu tendance à nier que leurs officiers ou leurs soldats participent à de tels actes. Hein.
Voilà, madame, j'espère que nos auditeurs sont satisfaits. Nous allons en prendre quelques autres qui sont au téléphone. Il y a Roger de Kinshasa Alpha qui est en ligne depuis Kisangani et le docteur Yves de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Juste pour moi, le temps de lire quelques mails qui nous sont parvenus. Il y a Pierre Lokanga de Londres, en Angleterre, qui dit ceci. Le rapport de Global Witness n'est pas le premier. L'ONU avait aussi publié un rapport affirmant que des militaires des FARDC étaient impliqués dans le trafic illicite des minerais de la RDC. Ces militaires sont bien connus et même cités dans le rapport de Global Witness, mais ils continuent leurs pratiques illicites tout en bénéficiant de l'impunité. Merci Pierre Lokanga de Londres en Angleterre. Il y a aussi toujours de Londres en Angleterre, il y a Ernest qui nous dit ceci, dans les crises que connaît le Congo, les soldats doivent être une priorité pour l'État et non la classe politique. À son avis, sans cela, la paix ne sera jamais réalisée à l'est du Congo. Donc, il dit également qu'il serait-il possible de réduire les salaires et dépenses des hommes politiques, car leur train de vie me semble être une sorte de corruption à ciel ouvert. Donc, je pense qu'il voudrait parler de d'équilibrer un peu les revenus pour mieux payer les militaires. Karine, est-ce que vous pensez que mieux payer les militaires congolais pourrait faciliter également, arrêter justement ces trafics illicites de minerais?
Arrêter, non, malheureusement. Réduire, peut-être. Je pense qu'au niveau inférieur de l'armée, c'est vrai que les petits militaires, souvent, sont très mal payés ou même pas payés du tout. Et donc, c'est peut-être en partie pour ça qu'ils cherchent des moyens de gagner quelque chose. Mais en fait, le phénomène est beaucoup plus répandu, beaucoup plus profond. Et je crois qu'il y a une dimension politique, une implication des autorités à haut niveau qui est très importante. Parce que quand on voit les commandants supérieurs, les officiers s'enrichir, là, ce n'est pas une question de petits militaires qui ne sont pas payés. C'est vraiment un autre phénomène. Et je crois qu'il faudrait vraiment que les autorités congolaises et civiles et militaires prennent cela au sérieux et prennent des mesures concrètes pour mettre fin à cela, notamment en menant des enquêtes approfondies, indépendantes et en traduisant en justice les personnes responsables, dont plusieurs d'ailleurs sont déjà très bien connues.
Vous avez enquêté depuis 2008, hein, c'est ça, si j'ai bien lu dans votre rapport, mais ça produit combien cette industrie illicite des minerais de la mort, le coltan, l'or et la cassitérite?
En fait, c'est très difficile de mettre un chiffre sur la proportion.
Mais vous avez dit dans votre rapport que les FDLR, par exemple, amassent des millions de dollars. Je l'ai lu dans votre rapport.
Oui, oui. En effet, ce sont des sommes importantes. Mais le problème, c'est que quand on compare ce qui passe en fraude avec ce qui passe officiellement. Donc, vous verrez dans le rapport qu'il y a les statistiques officielles du gouvernement congolais que nous avons reproduites, qui montrent quand même une amélioration, je dirais, au niveau de déclaration, mais c'est peut-être pas très clair toujours quand on voit les statistiques, parce que parmi les déclarations officielles, il y a des produits qui passent par les voies officielles qui ont été en fait produits par les groupes armés. Donc on trouve par exemple plusieurs comptoirs d'achat qui exportent les minerais vers l'étranger, des comptoirs basés à Goma et à Bukavu qui achètent et revendent des minerais qui ont été produits soit par les RTLR, soit par d'autres groupes armés. Donc quand on parle du commerce légal, je crois que c'est important de se rendre compte aussi que bon, ce terme légal, il faut peut-être l'utiliser avec prudence, car il y a des minerais produits de façon illégale qui passent par les voies légales.
Voilà, merci beaucoup. Roger, bonjour. D'abord, vous êtes à Kinshasa. Votre petit commentaire par rapport à ce sujet est délicat.
Bonjour Claude, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour.
Oui, Claude, moi j'ai vite envie d'emprunter une expression que quelqu'un a dite, que c'est comme si nous sommes frappés d'un envoûtement collectif, hein.
Pourquoi?
Pour le pays.
Pourquoi?
Parce que,
comment ça?
Comment ça peut se faire que rapport sur rapport, dénonciation sur dénonciation, et les problèmes perdurent et apparemment ils s'amplifient. Ce rapport n'est pas le premier. Et c'est pourquoi je vais directement poser par exemple une question à votre invité.
Oui.
Global Witness, lorsqu'il dénonce et qu'il y a des cas flagrants, des enquêtes ont été menées, il y a même des noms. Est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de saisir certaines instances judiciaires, même au niveau international? Ça, c'est une question qu'elle pourra répondre. De toutes les façons, ce problème est très complexe et il devient beaucoup plus complexe lorsque les structures officielles, ceux qui sont censés mettre fin à la chose, sont impliqués. On vous parle par exemple des militaires qui, là où il n'y a pas la guerre, comme au Katanga et ailleurs, qui sont là, qui se font passer par exemple pour des militaires, des faux militaires ou des officiers connus. Et même payer des militaires, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est
quoi,
pas des militaires qui exploitent, qui bénéficient de ça. Ils exploitent pour le compte des officiers qui sont soit sur le terrain, soit ici à Kinshasa. Il suffit de voir l'enrichissement à la limite arrogant qui se passe ici, pour voir que ces gens ils tirent des ficelles là-bas.
Mais que pensez-vous également des pays voisins tels que le Rwanda et le Burundi qui sont quand même des voies de transit de ces minerais d'après ce rapport? Et il y a aussi, il faut pas l'oublier, hein, les FDLR, les miliciens hutu-rwandais qui prennent pratiquement en otage des populations, qui les obligent, les forcent à travailler pour eux et leur confisquent le prix de leur travail, prix de leur travail.
Non Claude, mais pourquoi nous sommes en guerre contre les FDLR? Moi, je ne suis pas surpris que les FDLR fassent ça, et ça ne peut surprendre personne.
Pourquoi?
C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Les FDLR sont là pour ça.
Au départ, ils n'étaient pas là pour ça. Hein. Au départ, ils avaient fui le génocide.
Non, c'est tout. Bon, ils avaient fui le génocide, et après, il y a eu quand même des dispositions qui étaient prises pour leur rapatriement. S'ils persistent à rester là-bas parce qu'ils se sont bâtis des grands empires financiers, ils ont de gros capitaux, ils sont devenus des millionnaires, ils sont connus. Leurs représentants, d'ailleurs, ils sont en Allemagne, partout là-bas. Ils ont beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas être surpris que les FDLR exploitent les minerais. Parce que eux, ce sont des étrangers, sont des prédateurs, ils sont là pour ça.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous a compris, Roger. Merci d'être intervenu depuis Kinshasa, d'une province à une autre, de la capitale Kinshasa à Kisangani. Voilà, Alpha, vous êtes dans la province orientale. Est-ce que vous avez un point de vue, le même point de vue que le précédent auditeur ou le vôtre est différent?
En tout cas, moi, je soutiens toujours ce que mes prédécesseurs viennent de dire.
C'est-à-dire?
C'est que moi, je regrette que toutes ces exploitations que nous appelons illégales ou illicites, ça constitue un manque à gagner pour la population congolaise et non pour les autorités de la République démocratique du Congo.
Alpha?
Alpha? Oui.
Éloignez-vous, je l'avais dit en tout début de cette émission, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Éloignez-vous de
moi,
s'il vous plaît. Alpha, s'il vous plaît, on va revenir à vous. Docteur Yves, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre rapport à ce niveau du débat? Avant que vous nous répondiez, hein, je tiens à rappeler à nos auditeurs, ça nous fait perdre énormément de temps. Quand vous êtes tout près de votre radio, s'il vous plaît, éloignez-vous-en et si les gens veulent vous écouter, ils pourront le faire à la maison. Allez-y, docteur.
Bon, je voulais intervenir sur ce problème, puisque ça nous inquiète. Un problème qui traîne, qui n'a pas de solution. En fait, moi, je me demandais souvent, comment les gens de FDLR, ils trouvent les armes où, ils mangent où, qui achète ces minéraux. Mais je pense bien que il doit y avoir des autorités politico-administratives là-dedans, même des autorités d'instance judiciaire, si on suit bien la filière.
Yves, je vais vous compléter. Oui. D'après ce rapport de Global Witness, les FDLR qui gagnent des millions de dollars à travers ce commerce illicite des mineurs congolais ont ainsi la facilité de s'acheter des armes, puisque les frontières congolaises sont poreuses. Hein. Il y a un grand trafic d'armes au niveau de l'Afrique centrale ou même dans l'Afrique des Grands Lacs.
Oui, mais maintenant, qui amène ces armes-là? C'est ça, il faut suivre la source de provenance, d'où proviennent ces armes et comment ces armes parviennent aux FDLR.
Il y a beaucoup de groupes d'armées. Il y a beaucoup de groupes d'armées aussi dans la région qui peuvent trafiquer des armes.
Et tout comme les rapports de l'ONG, c'était clair. Il y a vraiment une collaboration forte entre nos militaires et les FDLR. D'où il faut que notre président de la République, il continue vraiment à punir, il est garant du droit de la nation, il peut tout faire pour maintenir cette affaire, soit changer les autorités militaires, soit remplacer ces militaires par d'autres militaires qui peuvent peut-être gérer cette zone du côté de l'Est là, parce que même le président Sarkozy a bien dit que cette exploitation, c'est une exploitation conjointe entre des pays d'autres, le Rwanda et le Congo. Maintenant, il faut maintenant connaître qui la même loi qui est derrière. Il faut vraiment bien poursuivre. Si ces deux chefs d'État se mettent d'accord et le comité international, je pense qu'on finira à mettre fin à ce trafic-là. Ce trafic, moi, en fait, je n'appelle même pas, c'est un trafic illicite. C'est illicite puisque les minéraux quittent le Congo, ça arrive au Rwanda, soit au Burundi, on achète et l'argent rentre. Donc il y a toujours des autorités, soit des personnes là, très fortes, qui sont derrière ces commerces-là.
Vous pensez, docteur Yves, à vous entendre, on a l'impression que vous voulez dire qu'il y a des personnes qui bénéficient de ce commerce illicite de minerais et qui ont intérêt à ce que cette situation d'insécurité perdure parce que ça leur profite. C'est ce que vous voulez dire?
Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils mettent fin à cette affaire et qu'ils voient que ça réussit chaque jour, le jour au jour. Même quand il y a un mouvement, il y a parfois des mines de diamants. On voit dans des mines, il y a toujours des autorités militaires, des autorités physiques, il y a aussi des gens du parquet. C'est ce que c'est là-bas. C'est un jeu.
Est-ce que ce n'est pas pour protéger également, pour manifester la présence de l'État? Parce qu'il doit y avoir quand même
Non. Même Michel Bougnet, quand on produit, ça rentre dans les poches, soit du procureur, de la personne, ce n'est pas dans la caisse de l'État, ce n'est pas dans la caisse de l'État. Il y a tellement de gens, il faut tellement qu'on, les caisses de l'État continuent à finir. C'est l'impunité qui est en train de favoriser ces trafics-là.
Merci beaucoup, Yves. Docteur Yves, je rappelle que vous interveniez depuis Mbujimayi et c'est dans la province du Kasaï oriental.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes bien sur Radio Okapi dans l'émission interactive Parole aux auditeurs qui vous donne la parole en direct sur ces antennes, vous, auditrices et auditeurs de Radio Okapi, où que vous soyez à l'étranger ou ici en RDC. Et pour vous permettre justement d'intervenir en direct, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Dans son dernier rapport de juillet 2009, l'ONG britannique Global Witness met à nu l'implication des miliciens hutu-rwandais FDLR, de quelques militaires et commandants des FARDC, l'armée nationale, et de celle de certains nos sociétés étrangères dans l'exploitation et le trafic de minéraux tels que l'or, la cassiterite et le coltan au nord et au sud Kivu. Certains pays tels que le Rwanda et le Burundi constituent aussi des pays de transit de ces minéraux. Alors, quel est votre point de vue sur ce rapport de Global Witness et la situation? situation qu'elle décrit et comment, d'après vous, mettre fin à ce commerce des minerais de la mort. Nous avons une invitée pour en parler. Elle est de Global Witness, l'ONG qui a produit ce rapport. Il s'agit de Madame Karina Tersakian. Et si vous voulez intervenir, nous avons trois possibilités. Appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Appelez-nous et nous vous rappellerons tout de suite après. La seconde possibilité, c'est de nous envoyer un SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222. Envoyez-nous, si vous voulez intervenir, que vous n'avez pas aussi des crédits, vous pouvez nous envoyer votre prénom par SMS et un numéro de téléphone par lequel nous pouvons vous joindre et nous vous rappellerons tout de suite après. La dernière possibilité, c'est de passer par l'internet. Voici notre adresse, PA en un seul mot comme parole aux auditeurs, @radioocapi.net. Radio Okapi, c'est en un seul mot. Et n'oubliez pas qu'il y a deux O dans Radio Okapi. Voilà, Madame Karina, est-ce que avec les opérations militaires contre les FDLR qui se déroulent actuellement dans les provinces du Kivu, est-ce que vous pensez que vos données sont encore les mêmes ou bien la situation a changé? Parce que peut-être qu'ils ont, les FDLR ont été chassés de Bissier ou des territoires qu'ils occupaient pour exploiter ces minerais.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu certains changements en termes de peut-être la présence des FDLR dans certains endroits où ils ont été chassés de certains autres endroits, mais ce que nous constatons, c'est que les pratiques en ce qui concerne l'exploitation des minerais restent plus ou moins inchangées. Même si les personnes qui commettent ces actes changent, les pratiques restent les mêmes. Et c'est ce que la population nous dit, les gens que nous avons interviewés nous ont dit, que ce soit les FDLR, que ce soit les FARDC, c'est la même chose pour nous, c'est la population qui souffre. Donc maintenant, on assiste à un phénomène où peut-être avec les opérations militaires, il pourrait y avoir des FDLR qui sont chassés d'un endroit particulier, les FARDC viennent les remplacer dans cet endroit, mais en fait, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils reprennent l'exploitation, ils reprennent même les mêmes réseaux commerciaux qu'utilisaient les FDLR. Donc, tout ce qui a changé, c'est l'identité des personnes qui sont là, mais les pratiques sont identiques.
Hein. Voilà, mais répondez aussi à une question de Roger de Kinshasa qui demande si vous ne pouvez pas aussi saisir des instances judiciaire aussi bien national qu'international pour traduire en justice certaines personnes que vous avez citées dans votre rapport, notamment des commandants ou des commandants de l'armée nationale, que vous ne pouvez pas les traduire en justice auprès des instances nationales ou même internationales. Ça, c'est une question de Roger de Kinshasa.
C'est une très bonne question. Malheureusement, Global Witness, nous sommes une ONG, donc nous n'avons pas les moyens de traduire en justice. Ça, c'est la responsabilité des gouvernements. Mais par contre, ce que nous avons fait, et là je parle plutôt de la dimension internationale, c'est qu'en 2007, nous avons déposé une plainte auprès du gouvernement britannique concernant une société de droit britannique nommée Afrimex, qui avait fait le commerce de ces minerais tout au long de la guerre, y compris en achetant des minerais auprès de fournisseurs qui versaient des paiements aux gros rebelles. Bon, à l'époque, c'était le RCD, n'est-ce pas? Mais en fait, ce sont ces mêmes comptoirs qui, aujourd'hui, traitent des minerais produits par les FDLR. Donc, nous avons déposé cette plainte auprès du gouvernement britannique. Le gouvernement britannique a étudié la plainte, a mené ses propres enquêtes et a conclu, effectivement, que cette entreprise avait violé, en l'occurrence, les principes directeurs de l'OCDE sur les entreprises multinationales, qui est un système international avec certains principes de conduite pour les entreprises. Alors, malheureusement, ce n'est pas suffisant, puisque c'est un mécanisme qui est purement volontaire. Donc, ce n'est pas l'équivalent d'une plainte en justice, mais nous sommes en train de persuader les gouvernements à le faire.
Voilà, merci beaucoup Madame Karina Tersakian. Je rappelle que vous êtes de Global Witness, l'ONG britannique qui vient de produire un rapport sur la militarisation de l'exploitation minière au nord et au sud Kivu. Nous allons nous rendre à Matadi, au Bas-Congo. Glory, vous êtes sur place. Bonjour Glory.
Bonjour Monsieur Claude.
On vous écoute. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue est celui-ci. Donc moi, en tout cas, je suis très déçu.
Oui.
De l'attitude de notre gouvernement, parce que j'avais spécifiquement suivi madame de Global Witness lundi au dialogue entre Congolais à 19h avec le ministre qui était également en ligne, le ministre de la communication Mende.
Oui.
En tout cas, je regrette beaucoup que notre gouvernement, jusqu'alors, continue à avoir des attitudes irresponsables.
Dans quel sens?
parce que moi j'estime que jusqu'alors on ne décollera jamais aussi longtemps qu'on n'aura pas un seul chantier. Il s'agit de la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire quoi? On a même cité le nom d'un colonel. Et le ministre a semblé même connaître le colonel Sani, semble-t-il, qui serait à Walikale, qui contrôle ce minerai-là de cassiterite là-bas au sud, je crois, ou au nord-sud. Le ministre a eu une attitude que moi j'ai trouvée pas trop convaincante. Surtout, c'était en direct, hein, où nous, la population, était en train de suivre. Parce que je suis...
Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit à ce sujet? Glory, qu'avait dit le ministre à ce sujet?
Oui, le ministre a dit ceci, qu'ils sont en train de commencer à agir. Mais concrètement, il ne nous a pas fait, il n'a pas présenté les faits exacts pour montrer que voilà, jusque-là, on a déjà fait concrètement ceci pour empêcher à. Là, je suis en train de parler des FRDC. FARDC. Je suis en train de excuser le comportement du ministre qui n'a pas présenté des faits convaincants pour montrer que le gouvernement jusque-là avait déjà commencé à agir efficacement pour neutraliser les éléments congolais qui participent à ce trafic illicite.
Et comment faire alors pour neutraliser aussi les éléments étrangers et même le trafic dans nos pays voisins, dans certains pays voisins, notamment le Rwanda et le Burundi, et aussi empêcher à ce que certaines sociétés étrangères qui continuent à ce que ces sociétés puissent continuer à acheter des minéraux tels que le coltan, la cassiterite qui interviennent, madame, si je ne me trompe pas, dans la fabrication des ordinateurs, des téléphones portables et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, madame?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Oui, voilà. Merci beaucoup pour la question, M. Claude.
Oui.
Pour ce problème-là, en tout cas, là, c'est encore la volonté du gouvernement qui a un ministère des Affaires étrangères et qui a également des ambassadeurs, donc pratiquement tous ces pays où ces minéraux transitent. Bien sûr, au Rwanda, il n'est pas encore accrédité, mais il sera bientôt accrédité. Mais les relations semblent être intéressantes actuellement entre le Rwanda et la RDC. Et également avec l'Ouganda, où le président a même été avec le président Yoweri Museveni. Il faudrait que des mesures soient prises pour que une fois de plus, pour que pour une fois on puisse sentir que la RDC est responsable et qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui sont capables d'agir. Donc juste pour finir, je dirais que c'est encore la responsabilité du gouvernement,
voilà, merci,
externe avec le ministère des Affaires étrangères, qui doit se déployer pour pouvoir bloquer ces transits. En tout cas, ils doivent réfléchir, parce que si les autres parviennent à se développer ou à progresser, parce qu'ils réfléchissent et ils agissent.
Mais tant que le gouvernement congolais n'a pas la maîtrise sur tout son territoire, est-ce que vous pensez que ça pourra marcher?
Bon, vous avez raison que le gouvernement n'a pas la maîtrise sur tout son territoire. Je peux admettre que ça soit dans la forêt équatoriale. Mais Walikale, c'est un territoire quand même, il y a un seul territoire, il y a la population, le gouvernement vient se battre pour contrôler ce territoire-là. Aussi longtemps qu'il ne sera pas en mesure de contrôler, ça sera encore lui qui sera irresponsable.
Voilà, merci.
Je dis que ces mouvements-là, de FDLR au niveau de Walikale, ont commencé depuis 2006. Or, notre gouvernement est en place aussi depuis 2006. Donc, c'est durant leur mandat que cela est arrivé et ils doivent soutenir que pendant leur mandat que cela soit résolu.
Merci beaucoup, Glory. Je rappelle que vous interveniez depuis Matadi, c'est dans la province du Bas-Congo, d'une province à une autre et d'un auditeur à un autre. De Glory, nous allons rejoindre Olivier de Matadi au Bas-Congo. Nous allons rejoindre Olivier à Bounia, c'est dans la province orientale. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Okapi. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, quelle est votre réaction par rapport à ce problème? Vous êtes aussi dans une zone où il y a aussi l'exploitation minière telle que l'or. Quel est votre point de vue sur cette question?
Oui, moi je pense que ce phénomène qui n'est ni plus ni moins que tragique, si vraiment le gouvernement voulait mettre fin à cela, il l'aurait déjà fait il y a longtemps.
Dans quel temps?
Parce que le gouvernement, il a tous les moyens. Il a une armée qui pouvait empêcher ces exploitations illégales. Et s'il pouvait vraiment empêcher ça, il n'aurait qu'à penser à payer ses soldats. Et ensuite, les soldats n'auraient pas à aller exploiter les minéraux.
Mais l'armée congolaise est en pleine réforme.
Non, oui, mais une réforme qui est très lente, monsieur le journaliste. Mmh. Une réforme est très lente. Et quand le ministre Lambert Mende, sur votre radio, s'est permis de dire que vraiment la réflexion de laisser sa vie, c'est une question de temps, moi je trouve vraiment que c'est irresponsable pour un ministre de dire des tels propos à la radio.
Malheureusement, monsieur Lambert Mende n'est pas dans cette émission, il n'a pas l'occasion de vous répondre. Voilà, si vous pouvez rester dans le thème d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ce trafic?
Moi, je propose d'abord un contrôle au niveau de nos frontières et en plus, la communauté internationale. On a dit avec la Chine, on a fait des embargos contre les produits chinois. Alors, toutes les entreprises qui exploitent le coltan et ainsi de suite dans nos provinces de l'Est, et si les produits qu'ils produisaient subissaient aussi des embargos, moi je pense que ce fléau prendra fin.
Voilà, merci beaucoup Olivier, vous intervenez à partir de Bounia dans la province orientale. Benoît, vous êtes en ligne depuis Kindu et Georges, vous êtes en ligne depuis Kisangani dans la province orientale. Madame Karina, dans votre rapport, on lit que parfois il y a vraiment une très très bonne collaboration entre des militaires, certains militaires congolais de l'armée nationale et des miliciens outrouandais FDLR qui s'entraident, les FDLR empruntent des schémas gardés ou protégés par les FARDC, les FARDC aussi empruntent des schémas gardés par les FDLR, tout ça dans le processus d'exploitation illégale de minerais tels que la cassiterite et le coltan. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que les autorités sont au courant également de ça? Comment d'abord l'expliquer?
Comment l'expliquer? Bon, je pense qu'à un niveau individuel, personnel peut-être, il y a certains membres des FARDC qui ont des sympathies personnelles envers les FDLR. D'ailleurs, à titre privé, ils le disent même très très franchement.
Qui fait?
Il y a plusieurs, même des officiers assez haut gradés des FARDC qui ne cachent pas leur sympathie pour les FDLR. Alors, ce n'est peut-être pas la politique officielle de l'armée, ni du gouvernement.
Donc on ne peut pas mettre toute l'armée congolaise dans ce sac, c'est une partie des officiers et de...
C'est une partie, mais c'est une partie suffisamment importante. Et ce que ça veut dire, en fait, en termes concrets sur le terrain, c'est que les FARDC laissent faire et qu'ils se côtoient. Disons, il y a plusieurs régions, on a constaté ça, particulièrement aussi Kivu, hein, où les FARDC sont là côte à côte avec les FDLR. Chacun contrôle leur territoire. Ils, comme vous l'avez dit, ils traversent les territoires des uns des autres. Ils ne se
traversent pas, rapport, oui.
Et parfois même ils se partagent le butin, si je peux dire ça comme ça. Il y a des routes, par exemple, où on trouve de nombreuses barrières, quelques barrières des FDLR suivies de quelques barrières militaires. Et là, parfois, on nous a raconté des creuseurs qui passent ces routes, nous ont dit que oui, en fait, parfois ils se partagent même les produits, les sacs de cassiterite qu'ils ravissent aux creuseurs. Donc c'est une situation quand même assez choquante, étant donné que l'armée officiellement est opposé au FDLR, est justement en train de mener des opérations militaires, mais en fait on a l'impression que les intérêts économiques transcendent les intérêts politiques ou militaires.
Voilà, mais quelle est l'importance des réserves du coltan de la République démocratique du Congo, ou de la cassiterite, qui sont des minerais importants auxquels des sociétés étrangères ne peuvent peut-être pas se passer. La RDC a combien, enfin du pourcentage dans les réserves mondiales de ces minerais?
Pour la cassiterite, par exemple, on estime ça à peu près 4 ou 5 % de la population globale. Donc, ce n'est pas un pourcentage énorme, mais c'est quand même...
5 % des réserves mondiales.
De la production.
De la cassiterite, oui. De provision RDC,
voilà.
En ce qui concerne le coltan.
Le coltan, malheureusement, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais en fait, comme vous le savez sans doute, on a aussi constaté une baisse des prix des coltans depuis quelques années. Donc, au début de la guerre, par exemple, dans les années 98-99, c'était le coltan qui était vraiment le minerai pour lequel
tout le monde se battait. Parlez devant le micro, s'il vous plaît.
Oui, excusez-moi. Que le coltan, il y a quelques années, était plus important en termes de prix et de valeur. Mais il y a quelques années, le prix du coltan a baissé. Et c'est plutôt le prix de la cassitérite qui a augmenté. Donc actuellement, depuis plusieurs années, la cassitérite, c'est toujours le minerai le plus important. Là, je ne parle pas de l'or, hein, mais quand on compare cassitérite et coltan, la cassitérite, c'est vraiment le minerai le plus important en termes de valeur et en termes de quantité exportée du Congo.
Est-ce que les sociétés étrangères spécialisées, par exemple, dans la téléphonie, dans la fabrication des téléphones portables, des, je ne sais pas, des ordinateurs ou des matériels de haute technologie ou même des matériels qui aiment bien les jeunes, hein, des MP3, est-ce que ces compagnies étrangères ne peuvent pas se passer du coltan congolais ou de la cassitérite?
Il pourrait s'en passer. Il y a aussi bien sûr d'autres sources, hein, pour ces minerais et ces métaux. Ça ne se trouve pas uniquement au Congo, on trouve ça ailleurs aussi.
Mais ça peut aussi punir la population.
Justement, alors je pense que c'est important de dire ça. Par exemple, nous à Global Witness, on ne propose pas un embargo sur l'ensemble de ce commerce. D'abord, nous ne pensons pas que ce serait la solution. Et ensuite, comme vous l'avez dit, ça punirait la population. Mais surtout, ça punirait la petite partie du secteur minier qui n'est pas contrôlée par les groupes armés. Parce que ce n'est pas 100% de ce commerce, quand même. Et je pense que c'est important de reconnaître cela. Donc, ce que nous proposons plutôt, c'est que les sociétés étrangères qui achètent ces minerais ou qui font le traitement, etc., que ces sociétés se renseignent, qu'elles posent des questions précises sur l'origine et les intermédiaires avant de se lancer dans ce commerce.
Voilà, merci beaucoup madame. On vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Benoît, vous êtes à Kindu, c'est dans la province du Maniema. Bonjour d'abord, quel est votre rapport à ce niveau du débat?
Oui, écoute, Claude, je suis très content avec... ces rapports-là de Global Witness.
Pourquoi?
Moi, je suis journaliste, je n'ai jamais tombé dans des enquêtes comme ça, parce que vous-même, vous êtes journaliste comme moi, mais il y a des temps où nous avons des difficultés de découvrir des réalités comme ça. Donc, à ce niveau-là, je dis, coup de chapeau.
Mmh.
Mais au fait, au même moment aussi, je me dis, mais qui alimente la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Je crois que Mme Kavina, qui est là, il doit être sincère. Il doit reconnaître que la guerre qui secoue l'Est vient de l'Occident, dont elle est originaire. Je précise quoi. Alors, le problème c'est quoi? Il faut attaquer le mal par les racines. C'est comme disait Roger de Kinshasa là-bas. Chaque jour, on doit toujours avoir des rapports, des dénonciations, tout ça, tout ça. C'est bien. Mais nous devons connaître qui alimente la guerre à l'Est.
Voilà.
Je répète pour la deuxième fois, c'est l'Occident.
Voilà, vous l'avez...
Global Witness doit faire un effort. D'abord, commencer à demander au gouvernement, par exemple anglais, comme il est ici, les États-Unis, et de cesser à financer la guerre d'une façon indirecte pour que la population soit calme. Ça, ce n'est qu'une conséquence logique de ce qu'ils sont en train de faire là-bas.
Mais Mme Karina dit qu'ils avaient saisi, ouais, je pense, au gouvernement britannique au sujet d'une société anglaise qui, justement, participait à cette exploitation.
Bah, écoutez, ça c'est quelque chose, ça c'est une goutte de métier dans un océan, ça ne suffit pas. Moi, je crois que le problème, il faut aller tout droit dénoncer avec des lettres au niveau du Parlement, que ce soit le Parlement anglais, que ce soit le Parlement américain, qui est l'Est de la République démocratique du Congo est en train de souffrir chaque jour parce qu'il y a des milliers de morts.
Voilà, merci beaucoup, on a pris beaucoup de temps. Merci pour votre contribution. Benoît, vous interveniez depuis Kindu au Maniema. Le dernier invité, c'est vous, Georges de Kisangani. Bonjour, Georges. Voilà, Georges, vous avez votre poste radio, on l'a dit en tout début de cette émission, ça nous cause énormément de pertes de temps. Madame Karina, est-ce que vous pouvez répondre au précédent auditeur, hein, Benoît, qui dit que pourquoi ne pas saisir justement les parlements anglais, américains ou européens qui ont des sociétés qui se servent justement de cette cassitérite et du coton congolais. Il dit que c'est aussi l'Occident qui provoque la guerre à l'est du pays en achetant par exemple ces minerais.
Bon, je peux le rassurer, rassurer les auditeurs que chez nous à Global Witness, on fait un travail de plaidoyer intensif auprès des gouvernements étrangers, notamment, à titre d'exemple, le gouvernement britannique, le gouvernement belge, d'autres gouvernements européens, puisqu'il y a des sociétés britanniques, belges, asiatiques et autres qui achètent ces minerais. Donc, nous ne limitons pas nos efforts au niveau du Congo. Je pense qu'il y a une part de responsabilité importante au niveau international, mais il ne faut pas oublier qu'en premier lieu, ce qui se passe au Congo, c'est la responsabilité des Congolais et des autorités congolaises.
Mais des groupes étrangers aussi que le Congo n'a pas invités, comme les FDLR.
Justement, et je pense que là aussi, comme vous l'avez souligné dans certaines de vos questions, il y a le rôle des pays voisins qui reste très important. Donc si on cherche des solutions, par exemple, au problème des FDLR, il ne faut pas regarder seulement au Congo, il faut voir ça au niveau régional, voir par exemple quelle est la situation au Rwanda, quelle est la situation au Burundi, et qu'est-ce qui fait que cette situation continue.
Et qu'en dit ce gouvernement rwandais et burundais par lesquels ces minerais passent également?
Oui, alors nous sommes allés au Rwanda, Burundi pendant nos enquêtes, nous leur avons parlé, et nous leur avons parlé surtout du problème des contrôles aux frontières, ou plutôt des manques de procédures qui font que des minerais produits par des groupes armés puissent sortir par ces voies-là. Malheureusement, les autorités n'ont pas vraiment reconnu l'ampleur du problème. Bien sûr, ce commerce profite aux pays voisins. Par exemple, les minerais congolais qui passent par le Rwanda ou par le Burundi sont ensuite exportés comme s'il s'agissait de minerais rwandais ou burundais. Et on a constaté au Burundi particulièrement que les contrôles frontaliers sont très très faibles. Et là, c'est grave puisque pour le Burundi, c'est surtout l'or congolais qui passe par le Burundi. Et il y a une proportion importante de cet or qui est produit par les FDLR.
Voilà. Georges, on vous donne une minute. Hein. Bonjour, vous êtes à Kisangani. J'espère que vous êtes éloigné de votre radio. Allez-y, Georges, bonjour.
Bonjour, monsieur Claude, bonjour.
Rapidement, on est à la fin de cette émission.
Ok, merci. Et je voudrais seulement dire ceci. J'avais suivi un auditeur de tout à l'heure qui a parlé de la présence des FDLR et qui s'expliquerait par le fait que ces gens-là ne sont plus là à cause de ceux qui ont fui de génocides, mais ils sont là présentement parce qu'ils veulent exploiter nos minéraux. Oui. Vraiment, c'est une attitude que moi je regrette beaucoup. Et cela me conduit, m'amène à me poser tant de questions. Je ne sais pas quel est vraiment l'effectif de ces gens-là. Est-ce que l'effectif serait supérieur à nos troupes, en coalition même avec la Monique?
Voilà, merci.
C'est vraiment une attitude vraiment que nous déplorons.
Merci, merci beaucoup, Georges. Vous intervenez depuis Kisangani dans la province orientale. On va conclure avec vous, Madame Karina. Quelle solution finalement pour mettre fin ou bien réduire ce commerce illicite des minerais?
Bon, au niveau du Congo, je crois qu'il faut vraiment que les autorités s'attellent au problème de l'impunité et traduire en justice les personnes responsables. Au niveau international, je pense que les gouvernements étrangers doivent aussi demander à leurs entreprises qui font ce commerce de leur rendre des comptes.
Merci beaucoup, Madame Karina, pour avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de Global Witness. C'est ici que nous terminons cette émission. Parole aux auditeurs. Demain, nous parlerons des violences conjugales dont la femme congolaise est souvent victime. Comment se manifeste-t-elle dans là où vous vivez et comment y mettre fin? Réagissez dès maintenant au 0999 98 999 222 et par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci beaucoup.